nous accueillons ta présence. Merci pour ta présence. Ta présence nous est précieuse. Nous ne voulons pas prendre cela comme un acquis. Merci pour ta douce et sainte présence parmi nous. Merci parce que tu as déjà commencé à rendre un ministère dans les cœurs, éternel Dieu vivant. Merci pour chacune des personnes qui est présente, parce que ce matin, tu nous as donné rendez-vous avec toi. Alléluia. Tu nous as observés pendant la nuit, Seigneur éternel. Tu étais à côté de nous. Qu'on ait bien dormi ou mal dormi, tu étais présent près de nous. Parce que tu nous aimes, tu es un Père bienveillant. Tu t'es réveillé à nos côtés, Seigneur éternel, qu'on en ait conscience ou pas. Et tu nous as poussés à venir dans ce lieu parce que tu veux parler à nos cœurs. Merci pour ton amour débordant pour chacun d'entre nous. Ton amour incommensurable, Seigneur éternel. Merci pour la valeur que nous avons à tes yeux. Merci, Seigneur, parce que tu tiens à nous comme la prunelle de tes yeux. Tu nous as tellement aimés que tu t'es incarné dans un corps d'homme. Tu t'es dépouillé, Seigneur éternel. Tu as accepté les limitations de la chair, les limitations du corps d'un homme. Et tu as marché dans l'obéissance jusqu'à souffrir la mort de la croix. Et j'aimerais dire ce matin à quelqu'un, n'oublie jamais combien Jésus a souffert pour toi. Si tu doutes encore de l'amour de Dieu ce matin pour toi, n'oublie jamais combien Jésus a souffert pour toi. Il a souffert non seulement physiquement, mais il a souffert spirituellement. Sur la croix, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eli, Eli, lama sabachthani. Pourquoi m'as-tu abandonné? Lui qui a marché toute sa vie dans un plein amour, une pleine communion avec Dieu son Père. Et vous remarquerez que dans les évangiles, toutes les fois où Jésus parle de Dieu, il parle de son Père. Il faut que je fasse les œuvres de mon Père. Je ne fais que ce que je vois faire au Père. Et une des seules fois, si ce n'est la seule fois, il s'adresse à Dieu en disant, mon Dieu, Eli, c'est lorsqu'il y a cette séparation. Parce que Jésus sait que un Père, un véritable Père, n'abandonne jamais ses enfants. Il ne peut abandonner son Fils. Mais sur la croix, Jésus est devenu péché. Lui qui n'avait jamais péché, il est devenu malédiction. Et Dieu a détourné son regard. La Bible nous dit que la colère de Dieu est tombée sur lui. Il a pris sur lui nos meurtrissures, nos infirmités, pour nous libérer, nous guérir de nos maladies, pour nous délivrer du péché. Et j'aimerais vraiment vous encourager ce matin. Encourager quelqu'un, ne doute plus de l'amour de Dieu pour toi. Vous savez, parfois, je vais parler de la foi ce matin. Lorsque l'on doute de Dieu, ça attriste souvent, ça fait mal au cœur de Dieu. Non pas que Dieu est fâché après nous, mais ça l'attriste. Parce que lui, il sait le prix qu'il a payé pour qu'on puisse, pour rétablir cette connexion avec lui. Alléluia. Ne doute pas de l'amour de ton Dieu ce matin. Tu es pleinement légitime. Si tu es enfant de Dieu, que tu as accepté Jésus dans ton cœur, que tu as confessé de ta bouche, que tu l'as accepté dans ton cœur comme sauveur et Seigneur, tu es un enfant de Dieu. Tu as ta place ici. Et tu peux lui adresser la parole, communier avec lui. Alléluia. Et toutes les fois où tu lui demandes pardon, il est là pour te purifier, te restaurer, te laver, te libérer et te prendre dans ses bras d'amour. Alléluia. On a un Dieu merveilleux. On a un Dieu merveilleux. Alléluia. Alors, ce matin, j'avais à cœur de faire un cœur à cœur avec vous. J'ai à cœur de vous parler simplement et de vraiment qu'on puisse vivre un temps de cœur à cœur. Qu'on se dise les choses simplement. Et j'ai une pensée à vous partager. Et je prie pour être le plus simple, le plus direct possible. Sur la base d'un texte biblique qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu, qu'on trouve en réalité dans trois évangiles. L'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc et l'évangile de Luc. Andrea l'a dit, j'aimerais vraiment remercier le groupe de louanges, c'était magnifique. Waouh! Non, on peut les applaudir. Vous savez, vivre ce temps-là, ça fait du bien, ça fait du bien. C'est ça l'Église, c'est ça la communion des saints. La joie de l'Éternel est notre force. Parfois, on le cite automatiquement comme ça, mais la Bible dit que la joie de l'Éternel est notre force. C'est une force devant l'adversité, c'est une force devant la maladie. Et vous savez, quand on prend le micro comme ça, là, pour dire des choses, pour annoncer une pensée, c'est pas pour mettre de l'ambiance. On dit réellement ce que l'Esprit nous pousse à dire. Et je vous invite à saisir par la foi, j'ai parlé de la foi ce matin, à saisir par la foi les paroles que l'on prononce sous l'inspiration de l'Esprit. Parce que lorsque tu connectes ta foi à ce que dit l'Esprit, c'est là que tu actives ta guérison, ta délivrance. Vous savez, je suis convaincu que les guérisons ne se vivent pas que pendant les temps d'appel. Mais on peut vivre une guérison, une délivrance pendant des temps de louange comme ça. Vous savez, il y a une force, il y a un mystère dans le fait de chanter, de célébrer et de danser devant Dieu. C'est spirituel de danser devant Dieu. Non, c'est spirituel. Amen, amen mon frère, tu as raison. Amen, c'est spirituel. C'est un combat, c'est une marche. On rit devant l'ennemi, on se rit malgré les circonstances. Et parfois on peut se dire, non moi j'ai pas envie de danser. Si tu savais par quoi je passe mon frère, je n'ai pas envie de danser, bien au contraire. C'est se rire des circonstances, se rire de ce qui nous arrive et placer sa foi en Dieu. Placer sa foi dans une pleine délivrance, vous savez. Je crois qu'on vit une période de transition, comme l'a dit Andrea, et comme nous l'a rappelé Philippe Jauret la semaine dernière. C'était la semaine dernière, hein? Oui, la semaine dernière. On vit une période de transition et je sens qu'il y a un basculement. Un basculement pour l'Église, et pas simplement pour l'Église clé, mais un basculement pour l'Église en général. Il y a un basculement, Dieu nous attend au tournant. Cette histoire de coronavirus, là, souvent on veut voir la main de l'ennemi, mais je sais qu'en ce moment, Dieu m'encourage à, comment dire, à voir comme lui il voit. Pas voir que le côté négatif, mais voir qu'est-ce qu'on peut en tirer de ces histoires de confinement, de masques. Moi, ça me saoule, j'en peux plus des masques. Mais on doit faire avec. Mais qu'est-ce qu'on peut en tirer, Seigneur? Et je sais que Dieu est en train de parler à l'Église. Il veut qu'on puisse repenser l'Église. Qu'on puisse retourner à l'essentiel. Comme nous l'a dit Philippe, je vais retourner à un évangile de simplicité. À une évangélisation simple, un message simple, revenir à la croix et vivre des miracles au quotidien. Alléluia. Il y a une période de transition et je veux inviter chacun, chacune à être sensible à cela. Cette nuit, je me suis tenu devant Dieu et il y a pas mal de personnes que j'ai vues de cette église. Pendant que je priais, je suis heureux de les voir ce matin. Et croyez-moi, il y a des appels que Dieu lance ce matin. Il y a des appels que Dieu lance au service. Il y a des appels que Dieu lance à la consécration. Jésus dit qu'il est je suis la résurrection et la vie. Et je sais que Jésus veut aussi ressusciter des appels, ressusciter des dons qui ont été endormis à cause du découragement, à cause du relâchement. Il y a des dons. Et je me tourne vers la jeunesse parce que j'ai vu pas mal de jeunes pendant cette... Il y a un appel fort sur la jeunesse. Est-ce que vous le croyez? Il y a un appel fort sur la jeunesse. Là, 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 alléluia. Oh, il y a des jeunes potentiels. Tu as parlé du feu. Il y a des jeunes en feu là. Il y a des jeunes que Dieu veut oindre et bénir, qui vont être une voix pour cette génération, qui vont être des modèles de pureté, des modèles de radicalité, des modèles d'amour et des modèles de puissance. Est-ce que vous le croyez, les jeunes? Alléluia. Il y a une saison qui vient pour vous. Alléluia. Vraiment. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. On va lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 17, à partir du verset 14. La Bible nous dit ceci. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de moi. » Non, « aie pitié de mon fils, pardon, qui est épileptique et qui souffre cruellement. » Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pu le guérir. Et regardez ce que répond Jésus. Génération incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant. Et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Et Jésus leur répond, « C'est parce que vous manquez de foi, ou bien c'est à cause de votre incrédulité dans d'ancienne version. C'est à cause de votre incrédulité, c'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. » Rien ne vous serait impossible. Amen. Rien ne vous serait impossible. C'est écrit noir sur blanc. Rien ne vous serait impossible. Et Jésus ajoute, cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alléluia. Cette histoire est vraiment intéressante. Il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire. Je vais rester focus sur ce que je voulais partager. Pour situer le contexte, et Jésus revient de la montagne de la Transfiguration. Il a pris avec lui trois de ses disciples, son cercle intime. Vous savez, Jésus, là, il était souvent avec Pierre, Jacques et Jean. Et là, il les prend, il les amène sur la montagne. Vous savez que la montagne signifie le lieu de la présence, le lieu de la rencontre avec Dieu, le lieu de la prière, le lieu de la consécration. Il les prend, dans l'évangile de Luc, il est dit que Jésus les prie pour prier, et pendant qu'il priait. J'aime les nuances qu'il y a au niveau des évangiles, et quand vous lisez l'évangile de Luc et même les actes, vous voyez que Luc était un amoureux du Saint-Esprit. Luc met l'emphase sur la vie de prière de Jésus et sur l'action et l'œuvre du Saint-Esprit dans son évangile et dans les actes. Et Jésus prend ses disciples et il les amène sur la montagne pour prier. La Bible nous dit que pendant qu'il prie, il est transfiguré devant eux. Sa gloire est révélée devant ses disciples. Moïse et Élie leur apparaissent. Ses disciples sont choqués, estomaqués, waouh, ils ne savent pas quoi dire. Et la voix se fait retentir de la nuée. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, qui a toute mon approbation. Écoutez-le, écoutez-le. Suite à cet événement, ils descendent de la montagne. Alors là, ils sont de la montagne chargés à fond spirituellement, et d'autres sont restés dans la vallée en bas. Et quand ils descendent, ils voient qu'il y a du mouvement dans la foule. Et apparemment, il y a une discussion entre les disciples de Jésus et les pharisiens. Il y a eu un débat. Il s'est passé quelque chose. Et le père de l'enfant, qui est possédé par cet esprit impur, vient voir Jésus et vient lui dire, « Mais regarde, maître, viens au secours de mon fils. Il est épileptique, il est en proie à des souffrances terribles depuis son enfance. » Il va dire, « Tes disciples n'ont pas pu le chasser. » Et quand on voit la réponse de Jésus, c'est une réponse sévère quand même. Je ne sais pas vous, mais génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous, jusqu'à quand vous supporterai-je? Se prendre ça dans les dents, dans la figure, c'est... ça ne doit pas être très agréable. Mais Jésus était clair, radical. Il était l'amour personnifié. Et vous savez, l'amour n'empêche pas de dire la vérité. L'amour dit la vérité. Et Jésus dit la vérité à ses disciples. Quand on lit l'évangile de Matthieu au chapitre 10... Là, on est dans Matthieu 17, au chapitre 10. Écoutez ce qu'il a dit, c'est intéressant. Je lis ça rapidement. Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Toute maladie et toute infirmité. Jésus leur donne ce pouvoir. Ensuite, on avance, il y a les noms des apôtres, etc. On avance jusqu'au verset 7. Jésus va leur dire, en chemin, prêchez en disant, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ça paraît simple comme ça. Vous voyez, on voit ici que on ne peut dissocier la prédication de l'évangile et la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. Ça va de pair. On peut vivre des guérisons pendant le temps de l'ange, mais même pendant la prédication. Il y a beaucoup de témoignages comme ça, des personnes qui ont été guéries. C'est une histoire de foi. Je vous invite vraiment à avoir la foi ce matin. On va le voir juste après. Jésus nous dit, ayez foi en Dieu. Ayez pas foi en moi. Ayez pas foi en mon onction, mes capacités. Je suis encore à l'école de Dieu en apprentissage. Mais ayez foi en Dieu. Celui qui vous a donné rendez-vous ce matin. Alléluia. Alléluia. Ils ont reçu le pouvoir de chasser les démons, de purifier les lépreux. Et ils vont le faire. On voit dans l'évangile de Luc, ils vont le faire. Ils reviennent tout contents vers Jésus. Ils vont dire, wow, maître, même les démons nous sont soumis. Ça, c'était nouveau. Chasser les démons, c'était du jamais vu avant. Même les démons nous sont soumis. Et Jésus va leur dire, ok, c'est bien. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Il les encourage bien, mais il leur dit quand même, c'est pas ça le principal. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Vos noms sont inscrits dans le ciel. Alléluia. Mais on voit qu'ils ont ce pouvoir et qu'ils l'ont exercé avec succès. Et là, sûrement plein de confiance, ils l'avaient déjà fait avant, là, problème. Ils sont devant un cas compliqué.
un enfant, un démon, un esprit. Ils ont sûrement prié au nom de Jésus, fait ce que Jésus leur avait appris avec l'autorité. Mais là, ça coince. Ça ne marche pas. Et Jésus va leur donner la cause. Ils vont lui dire en privé, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a vécu des victoires dans notre vie, dans notre ministère auparavant. On a guéri des malades, les démons ont été chassés. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on était affiché comme ça devant tout le monde aujourd'hui? Pourquoi ça n'a pas marché aujourd'hui? Jésus, explique-nous. Jésus nous donne la réponse. C'est simple. Et c'est intéressant, Jésus ne dit pas c'est à cause de votre onction, de votre manque de puissance. C'est à cause de votre incrédulité. Et sûrement, vous savez, dans nos vies, ça nous est tous arrivé. Hein, on a vécu des victoires dans notre vie chrétienne. On a vécu des expériences avec Dieu. Peut-être des guérisons, des délivrances, des percées. Des expériences à l'église, en dehors de l'église, dans son temps personnel. Et puis parfois, il arrive un stade dans notre vie où on a l'impression que le ciel est fermé ou qu'on est devant une situation qui coince, qui bloque. Ça peut être une situation au niveau de la santé, atteint dans son corps. Ça peut être au niveau du couple. Ça peut être au niveau des finances. Ça peut être au niveau du ministère. Et parfois, ces choses-là peuvent durer des jours, des semaines, des mois, voire des années. Et on se dit, mais Seigneur, j'ai prié, je t'ai supplié de m'aider. Et c'est comme si on a l'impression que Dieu est indifférent, qu'il ne répond plus, qu'il s'est détourné de nous. On passe comme par un temps de désert. Mais laissez-moi vous dire que ça fait partie de la pédagogie de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit qu'il veut nous séduire pour nous conduire au désert afin de parler à notre cœur. Alléluia. Et dans cette pédagogie, Dieu veut nous enseigner quelque chose au niveau de la vie spirituelle. Nous dire qu'il y a un temps pour faire des prières, c'est vrai, de débutants. Des prières, Seigneur, aide-moi. Quand je dis débutant, même quand on est aguerri, hein, Seigneur, aide-moi, c'est une bonne prière, attention. Hein. Mais je parle de... que le Seigneur veut nous faire passer des classes. Vous savez, c'est comme au collège, maternelle, au collège, etc. Parce que ce que dit Jésus ici, il va dire à ses disciples que le problème vient de leur foi. Et écoutez bien ce que va dire Jésus. Il va dire, en gros, si tu parles à ton problème, c'est plus Seigneur, aide-moi, libère-moi, délivre-moi, s'il te plaît, interviens, qui sont des bonnes prières et qui touchent le cœur de Dieu. Mais il arrive un temps où nos prières peuvent toucher le cœur de Dieu sans pourtant déclencher la main de Dieu. Dieu se laisse le droit, il fait ce qu'il veut. Il est constamment... Vous savez, la Bible dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. C'est pas dit quand un malheureux crie, l'Éternel agit. Il y a une nuance. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il y a des choses aussi dans notre vie spirituelle où Dieu veut nous faire franchir un cap. Et Jésus nous dit ici que devant telle ou telle situation, il y a des fois c'est à nous, par la foi que nous avons en lui, de parler à nos montagnes, de parler directement à ce problème de finances, de parler directement à ce problème au niveau du couple, au niveau des enfants, au niveau du travail, au niveau de la maladie. Et parfois on essaye, et vous savez, quand on fait cet exercice, parfois on sent quand on n'a pas la foi. Oh, je parle, montagne, tu dégages au nom de Jésus-Christ. Et on essaie un peu de s'auto-convaincre, mais on le sent généralement quand on n'a pas la foi. Et Jésus nous dit ici que, c'est ça que j'aime, Jésus est un vrai pédagogue. Il peut être sévère dans sa réponse, mais il va nous dire que si nous avions de la foi comme un grain de moutarde, et vous savez, le grain de sénévé, le grain de moutarde au Moyen-Orient, c'était une des plus petites semences. Les Juifs les considéraient comme la plus petite semence. Mais la qualité du grain de moutarde, c'est qu'elle était très solide. C'était une semence presque incorruptible qui pouvait résister aux différentes intempéries, à la chaleur, à l'humidité, aux tempêtes. Et cette semence solide, incorruptible, comparée aux autres graines comme les graines de pavot, etc., pouvait croître, était toute petite et donner naissance à un arbre qui faisait plusieurs mètres de hauteur. Et Jésus nous dit que la clé ici, c'est pas tant la quantité de notre foi, avoir une grande foi, mais plutôt la qualité. Vous savez, cette foi en Christ Jésus, elle est constamment attaquée. On sait que Dieu est puissant. On sait que c'est Dieu de l'impossible. On le sait tous. On sait qu'il peut guérir, soulever, délivrer n'importe quelle maladie. Mais on a beau le savoir intellectuellement, le savoir, le connaître, l'accepter, l'intégrer spirituellement, c'est notre paire de manches. Et Jésus nous dit, parce que cette foi, vous savez, elle est constamment attaquée. Ça a commencé dans le jardin d'Éden, hein. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu t'aime réellement? Si Dieu t'aimait réellement, pourquoi il te laisse dans cette dépression depuis des années? Pourtant, tu as prié, tu es venu à l'église, le pasteur a prié pour toi, tu as fait l'APS, la relation d'aide, etc. Est-ce que Dieu t'aime réellement? Peut-être que Dieu t'a rejeté. Il y a des personnes qui croient ici que Dieu les a rejetés, ou Dieu m'a abandonné. Mon frère, ma soeur, Dieu ne t'a pas rejeté. Dieu ne t'a pas abandonné. Je suis là pour te dire cela ce matin. Dieu est plus près de toi que tu ne le penses. Mais il veut purifier, sanctifier ta foi. Cette foi, vous savez, elle est soumise au doute, à l'incrédulité, aux tempêtes. Et Jésus nous donne une autre clé. Il nous dit que, ok, devant tel problème récurrent, vous savez, parfois dans nos vies, il y a des problèmes qui sont récurrents. Une dépression récurrente, une maladie récurrente, devant parfois des problèmes qui sont récurrents, Jésus nous dit que c'est la foi, la clé. Mais maintenant, il y a une autre clé pour avoir cette foi qui peut déplacer les montagnes. Jésus nous dit que rien, avec cette foi, rien ne nous est impossible. Est-ce que vous connaissez un verset qui parle de l'impossible? On dit que Dieu, à Dieu, rien n'est... C'est vrai, tout est possible à celui qui croit, etc. Mais en fait, moi, quand j'ai lu ça cette nuit, vous savez, parfois on lit les choses et j'ai dit, mais oh, Jésus dit que rien ne nous serait impossible. Et c'est la première fois où j'ai tilté qu'en fait, il nous dit qu'en fait, il nous place au niveau de la foi sur le même pied d'égalité que Dieu. Parce que dans la Bible, de qui on dit que rien n'est impossible? C'est de Dieu que l'on parle. Et c'est là que je comprends les versets, parce que c'est une connexion. Soyez les imitateurs de Dieu. Ayez foi en Dieu. Il y a des versions qui traduisent ayez la foi de Dieu. Dans la version NB, c'est ayez la foi de Dieu. Parce que Dieu croit en ce qu'il dit, en ce qu'il prononce, en ce qu'il annonce, et ça l'amène à l'existence. Mais Jésus nous dit ici que, purée, si on a cette foi-là, rien ne nous est impossible. Et je comprends maintenant pourquoi il lui dit, mais les œuvres que je fais, vous pourrez vous aussi les faire. C'est pas du blabla, mes frères et sœurs. Il dit même, vous pourrez même en faire de plus grandes, à condition d'avoir cette foi. Et la clé pour avoir cette foi, ça passe par la prière. Dans l'évangile de Marc, il est juste précisé la prière. Ici, on nous parle de la prière et du jeûne. Vous savez, à l'époque, la prière et le jeûne allaient de pair. C'est que récemment qu'on a dissocié le jeûne et la prière. Jésus a... C'est quand même étonnant. Jésus qui est Dieu fait homme, qui n'a jamais péché, va aller 40 jours dans le désert. La Bible dit qu'il ne mangea rien durant ces jours-là. Il va jeûner. La Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, alla dans le désert, au début de l'évangile de Luc, chapitre 4, verset 14, Jésus revêtu. Après les 40 jours, il sort revêtu. Il est rempli, il en sort revêtu, comme un manteau. Le manteau de l'onction, il s'en sort revêtu. Et à partir de là, la Bible dit que sa renommée va se répandre dans toute la Galilée. Et là, il va guérir les malades, ressusciter les morts, faire des choses extraordinaires. Vous connaissez le ministère de Jésus. Et je me dis, waouh, si Jésus qui était pur, saint, parfait, juste, a jeûné, a prié... Combien plus forte raison, moi, je dois aussi l'imiter. Il y a une clé. Il y a une clé. Rappelez-vous que nous sommes sous la grâce. Dieu ne nous demande pas de respecter des préceptes, des ordres, simplement pour lui faire plaisir et pour qu'on soit de bons chrétiens. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous qui nous pousse à l'obéissance et qui rend les commandements de Dieu agréables. C'est très important, j'aime le rappeler. Et j'ai remarqué une chose très simple, et sûrement beaucoup d'entre vous l'ont remarqué ici. J'ai remarqué que plus je passe du temps avec Dieu, parce que c'est difficile, hein, c'est difficile de passer du temps avec Dieu, c'est difficile de prier, la chair ne veut pas. Parfois l'atmosphère spirituelle est lourde, surtout ici en Europe, des forces spirituelles vraiment d'assoupissement, d'incrédulité. Qui c'est qui me parlait d'incrédulité ce matin? Toi tu pries l'incrédulité. On doit vraiment se battre. Vous savez, la France c'est le pays des Lumières. René Descartes, hein, on dit souvent, ouais, un esprit cartésien. Ce sont des forteresses d'incrédulité contre lesquelles on doit se battre nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu. Et Jésus veut nous libérer de ça. Et un des moyens d'être libéré, c'est de passer du temps avec lui, simplement. C'est pour ça que mon message est très simple ce matin. C'est même un rappel, on l'a déjà dit ici. Mais j'aimais cette phrase de l'apôtre Paul qui dit, je ne me lasse pas de vous rappeler les mêmes choses, car pour vous cela est salutaire. Alléluia. Plus je passe du temps dans le lieu secret avec celui qui est saint, plus je réalise que je suis imprégné de sa sainteté. C'est comme, vous savez, un bronzage spirituel. On sort de l'été là, si je passe du temps à la plage, il faut bien se mettre à la crème solaire. Les plus bronzés d'entre nous n'ont peut-être pas besoin, mais quoi, j'ai pris un coup de soleil cet été, c'était le deuxième de ma vie. Bref, je ferme la parenthèse. J'ai fait le malin, mais je vois que le soleil là, il faut faire attention quand même. Si je m'expose au soleil, je vais bronzer. Je vais bronzer, je vais avoir chaud. De la même manière, j'aime cette image, si je viens m'exposer aux UV, aux rayons ultraviolets du soleil de justice qu'est Jésus, naturellement je vais bronzer spirituellement. Et le bronzage spirituel, c'est quoi? C'est qu'il me remplit d'amour, il me renouvelle, il me sanctifie, il me purifie. Ça a été une grande révolution dans ma vie spirituelle. Je ne suis pas encore arrivé, mais tu parlais du feu, Anne, et moi j'aimais beaucoup les prières. J'aime toujours, hein, mais j'ai appris à me calmer aussi dans la présence de Dieu. Parfois vous me voyez comme ça, mais chez moi je peux être très calme aussi. Non, j'aime passer du temps dans la calme, juste à écouter Dieu. Et j'ai réalisé que les plus belles expériences que j'ai vécues avec Dieu, c'était dans les moments de calme, où je m'expose à sa présence, vous savez, de méditation, juste un cœur à cœur avec lui. Et là, on sent comme sa présence, il y a ce bronzage spirituel, et on sent qu'après, on repart purifié. Et j'ai senti, j'ai réalisé que ces moments-là étaient parfois plus efficaces que des prières. Seigneur, libère-moi, délivre-moi, au nom de Jésus, je lis tel esprit. C'est bien de temps en temps. Mais au bout d'un moment, j'ai dit, mais ça marche plus ce truc-là, pourquoi? J'ai prié, et c'est là que j'ai compris que Dieu est vraiment un Dieu de relation. Il connaît nos problèmes, nos luttes, nos challenges, avant même qu'on lui expose. Et parfois, il nous dit simplement, juste passe du temps avec moi. Juste passe du temps avec moi, je m'occupe de ton problème de cigarette. Je m'occupe de ton problème d'alcool. Je m'occupe de tes pensées impures. Seigneur, libère-moi l'oppression dans les pensées. Ah, comment Satan attaque nos pensées. Des pensées de distraction, des pensées impures. Nous sommes assaillis constamment. Au niveau des pensées, au niveau des regards, c'est pas facile. Je lis telle pensée au nom de Jésus, tu la chasses, c'est bien. Mais j'ai compris que non, la clé vraiment c'est le lieu secret. Et dans la prière, il se passe quelque chose, je commence à bronzer spirituellement, à avoir les sentiments qui étaient en Christ. On a tous fait ces prières aussi, hein. Seigneur, remplis-moi d'amour, oh, renouvelle-moi dans mon amour, ou bien délivre-moi de ce manque de patience, etc. Et parfois on a du mal, mais pourquoi je suis toujours aussi impatient? Pourquoi je suis toujours aussi, je critique facilement? J'ai prié pour ça. Et parfois, juste de passer du temps avec lui, sa sainteté vient nous changer, nous transformer, nous influencer. On sort du lieu secret, on se dit, waouh, il s'est passé quelque chose là. Je ne me suis pas trop agité, je n'ai pas trop lié, je n'ai pas trop chandabarisé, rabosata. Mais chandabarisé, ouais, c'est un verbe infinitif du premier groupe. Chandabarisé, alléluia. Non, mais Dieu est simple, vraiment Dieu est simple. Et je sais que, vous savez, ce matin, je crois qu'il veut, comme l'a dit Philippe Jouret, qu'on revienne à un évangile de simplicité, mais même dans notre relation avec lui. Je crois que Dieu soupire à passer du temps avec nous et qu'on passe du temps avec lui. Alléluia. Et quand je prie, ben, il se passe quelque chose, je commence à avoir des désirs. La nourriture commence à avoir de moins en moins d'importance. Parfois, c'est les heures de sommeil. Parfois, des choses qui nous étaient difficiles avant, se lever tôt, mettre le réveil. On a tous lutté pour se lever plus tôt pour prier. Ça, on a beau avoir des réveils sur notre téléphone, parfois on met le réveil sonne et snooze, on appuie, il sonne 5 minutes, 10 minutes après, on réappuie, il sonne encore, on réappuie puis on se rendort. Mais j'aime dire aux gens que ce que Dieu regarde, la Bible dit que Dieu regarde au cœur. Et vaut mieux essayer et échouer que de ne pas essayer du tout. Alléluia. Vaut mieux essayer de prendre un temps de jeûne, si tu n'as jamais jeûné plus d'une journée, plus d'un repas, et de craquer sur un Kinder Bueno ou je sais pas trop quoi, mais au moins tu as essayé de jeûner. Je parle en connaissance de cause. Moi, c'est plutôt les Kinder Maxime. Oh là là, surtout quand on a des enfants, c'est difficile. J'ai beaucoup plus de mal à jeûner qu'avant. C'est pour ça que j'aimerais encourager les célibataires et les couples. Oui, profitez-en pour prendre des temps seuls avec Dieu. Parce que quand les enfants sont là, que le travail est là, il y a des fois on rentre du boulot, on n'a qu'une envie, puis il y a encore du bruit à la maison, c'est décompressé. J'allume la télé, je mets l'équipe, je regarde les résumés de sport et un Kinder Maxi ou un truc. Ah Seigneur, tu comprends, je veux jeûner, mais là, je sais que tu connais mon cœur. Et puis, ah Dieu est bon. Non, c'est difficile, mais au moins on essaye. J'ai parlé avec un frère qui me dit, mais comment tu fais pour prier la nuit? Comment tu fais pour rester éveillé toute la nuit? Je dis, mais tu sais, avant de réussir à rester éveillé toute la nuit, tu sais pas le nombre de fois où je me suis endormi. Je me suis endormi sur mon canapé avec la boeuf qui coule, etc. Ah oui, même ma femme a souvent t'es venu me réveiller plusieurs fois. Mais au moins j'essaye et je dis. Et un jour je m'ai montré une image avec mon fils. Il m'a dit, mais si un jour ton fils Angelo vient près de toi pour passer du temps avec toi et qu'il s'endort dans tes bras, est-ce que tu vas le rejeter? Il dit, oh, réveille-toi Angelo, on est là pour parler, t'es mon fils. Non, au contraire, je vais le prendre dans mes bras d'amour. Alléluia. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. te lèves la nuit, tu vas peut-être lutter, ça fait mal aux yeux. Et puis on ne te dit pas de prier jusqu'au matin, tu peux juste, parfois c'est même 10 minutes, 15 minutes. C'est un sacrifice, mais qui, je pense, plaît au cœur de Dieu. Il voit mon fils, ma fille a essayé. Et parfois on ne sait même pas quoi dire à Dieu. Vous savez, il y en a qui vivent des situations très difficiles parmi nous. Et ce fameux verset qui dit que parfois on ne sait même pas quoi dire dans nos prières. Mais Seigneur, je te fais confiance, je viens simplement auprès de toi. Tu vois, il est tôt le matin, je ne sais pas quoi te dire. Mon fils, ma fille est malade, mon mari est violent avec moi, il ne me fait jamais de compliments, il ne me calcule pas. À l'église, j'ai perdu le feu, quelle que soit la raison. Mais je sais que tu m'aimes et que ma destinée est entre tes mains. Je viens simplement auprès de toi, prends soin de moi. Alléluia. Alors, on peut s'endormir ou rester éveillé, mais croyez-moi, on a un Dieu qui est bon. J'aimerais vraiment parler de la bonté de Dieu ce matin. Vous savez, plus on presse du temps avec Dieu, plus on réalise combien il est bon, combien il est patient. Parfois, je me dis, mais Seigneur, comment tu fais pour être aussi patient avec moi? Non, je... C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Bref, 11h42, ok, c'est bien. En fait, ce matin, je voulais simplement vous encourager, vous savez, j'aimerais terminer en disant que il n'y a pas de champion spirituel, Dieu n'a pas de chouchou. Parfois on dit, non, lui là, il a vraiment reçu quelque chose, il a une grâce particulière pour prier. Oh, il a une onction, quelque... Oui, mais la grâce particulière, elle n'est pas venue du jour au lendemain, on sait exercer. La Bible dit, exerce-toi à la piété, c'est un exercice. Si aujourd'hui, ceux qui font du sport, qui ont l'habitude de courir, si tu n'as jamais fait de footing, allez commencer par un footing de 45 minutes, ça va être difficile, tu vas vite t'essouffler. On commence 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, oh, 45 minutes. Pareil en musculation. Pour ceux qui font le mon frère Jean-Marie, regardez ses gros bras là. Lui, je peux vous dire, il soulève lourd. Non, ce frère-là, il m'encourage. Pour devenir comme ça, il n'a pas... Ça s'est pas fait du jour au lendemain. J'arrive, boum, je soulève 120 kilos, développé, couché. Non, il s'est exercé. Il s'est exercé, musclé là. Séance après séance. Et les muscles ont poussé. Et puis la diète. Vous savez, l'exercice spirituel, la prière. La diète, c'est la nourriture, c'est la parole de Dieu. Je mets un peu de jeûne par-dessus. Tac, je m'exerce. Et j'avance et je progresse. Alléluia. C'est ça. Mais on avance de gloire en gloire. C'est progressif. C'est progressif. Parfois, je crois, et j'aimerais terminer en disant cela, une des prières que je fais pour moi et pour l'Église, je parle de l'Église avec un grand E, c'est « Seigneur, restaure l'image que nous avons de toi. » Vous savez, ce qui rend difficile parfois la prière, c'est pas tant que ouais, je ne suis pas un guerrier dans la prière. On a tous reçu, si vous avez le Saint-Esprit, vous avez la capacité de prier. Votre esprit aime la prière. Il aime la louange, il aime l'adoration. La Bible dit que notre esprit a été créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Il aime la louange. L'esprit est bien disposé, nous dit Jésus. Il est bien disposé. C'est la chair qui est faible, qui fait obstacle, qui fait barrage. Alléluia. Cet esprit, il aime Dieu. Ton esprit aime la prière. Les jeunes là, et les plus anciens. Ton esprit aime la prière, il prend plaisir au temps de jeûne. Souvent c'est la chair et notre âme qui n'est pas renouvelée qui fait obstacle. Alléluia. Mais parfois, c'est souvent l'image que l'on a de Dieu. Je ne sais pas quelle est l'image que tu as de Dieu ce matin. Est-ce que tu le vois comme un Dieu? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à appeler Dieu leur Père, même dans leur prière. Vous remarquerez, je ne sais pas comment vous priez. Merci Seigneur pour cette journée. Peut-être même que tu pries sincèrement. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour moi. Merci Seigneur. Seigneur, 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 Seigneur. Et c'est biblique, hein? Dieu est Seigneur. Mais Dieu est aussi un Père. Quand Jésus a enseigné la prière à ses disciples, est-ce qu'il a dit, quand vous priez, dites notre Seigneur qui est aux cieux? Il a dit notre Père, alléluia. Dieu est un Père. Alors parfois c'est difficile pour ceux qui ont vécu des expériences difficiles, douloureuses avec un Père physique qui peut-être a été violent, qui a commis des abus ou parfois qui était absent. Ils ont du mal à voir Dieu comme un Père. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse prier ensemble. Simplement dans la simplicité pour que Dieu puisse restaurer l'image du Père qu'il est. C'est un Père bienveillant. C'est un Père, il n'est pas là pour nous mettre des notes sur notre vie spirituelle. Toi tu pries bien, 8 sur 10. Toi tu pries un peu moins bien, 6 sur 10. Toi par contre c'est la catastrophe. Ça fait combien de temps que je n'ai pas vu dans le lieu de la prière? 0 sur 10. Non, il est là pour nous accompagner. C'est un Père. C'est un ami. Le Saint-Esprit en nous, j'aime dire, c'est... Je parlais de la musculation. Le Saint-Esprit c'est un coach. C'est notre coach de vie. C'est un maître, c'est un enseignant, c'est un ami, c'est un frère. C'est un enseignant, il est Dieu. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse vous inviter vraiment à être renouvelé dans votre relation avec le Saint-Esprit et votre relation avec Dieu le Père. Il y a un appel ce matin. Il y a un appel du cœur de Dieu. Et je sais que plusieurs ce matin ont senti cet appel. Dieu t'aime et te cherche. Regardez dans la Bible de Genèse Apocalypse comment Dieu ne cherche, comment Dieu ne cesse de chercher son peuple. Alléluia. Alors, j'aimerais terminer, pas par un appel, mais par un petit exercice. Si vous me faites confiance, de toute façon c'est trop tard, je suis sur l'estrade. Mais juste on va se lever pour ceux qui peuvent. On va se lever. Pour ceux qui le peuvent, bien évidemment. On va fermer les yeux et juste mettre la main sur notre cœur. Et j'aimerais que vous puissiez répéter après moi, simplement. Père éternel, merci pour ton amour. Merci pour ton cœur qui bat pour moi. Merci pour ton cœur qui brûle d'amour pour moi. Merci parce que tu es passionné de moi. Merci parce que tu penses constamment à moi. Et tu ne m'as pas oublié. Dans ma misère, dans ma solitude, dans mes problèmes, dans mes épreuves, dans ma maladie, tu ne m'as pas oublié. S'il te plaît, mon Père, restaure l'image, restaure ton image en moi. Donne-moi la force de passer du temps avec toi. Je veux te connaître, je veux t'aimer. Au nom de Jésus.